Chapitre 26. Le sursis. Le roi n'était pas d'une gaieté folle ce jour-là. Le licenciement de la garde nationale qu'avait laconiquement annoncé le moniteur du matin avait mis en rumeur toute la partie commerçante de Paris. Messieurs les boutiquiers, comme les appelaient messieurs de la cour, n'étaient jamais contents. Ainsi que nous l'avons déjà dit, ils murmuraient quand on leur faisait monter la garde, ils murmuraient quand on leur défendait de la monter. Que voulaient-ils donc? La révolution de juillet montra ce qu'ils voulaient. Ajoutons à cela que la condamnation de M. Saranty, qui s'était répandue par toute la ville, n'avait pas peu contribué, sinistre nouvelle, à augmenter l'effervescence chez une notable partie des citoyens. Et bien que Sa Majesté eût entendu la messe en compagnie de leurs Altesses royales, M. le Dauphin et Mme la Duchesse de Berry, bien qu'elle eût reçu Sa Grandeur le Chancelier, leurs Excellences les ministres, les conseillers d'État, les cardinaux, M. le Prince de Talleyrand, les maréchaux, le nonce du Pape, l'ambassadeur de Sardaigne, l'ambassadeur de Naples, le grand référendaire de la Chambre des Pairs, un grand nombre de députés et de généraux, bien qu'elle eût signé le contrat de mariage de M. Tassin de la Vallière, receveur général des finances du département des Hautes-Pyrénées, avec Mademoiselle Charlet, ces divers exercices n'avaient pas eu l'influence de dérider le front du soucieux monarque, et, nous le répétons, Sa Majesté était à 1000 lieues d'être d'une gaieté folle entre 1 et 2 heures de l'après-midi du 30 avril 1827. Tout au contraire, son front exprimait une sombre inquiétude qui habituellement lui était étrangère. Il y avait dans le royal vieillard, bon et simple de cœur, un peu de l'insouciance de l'enfant. Il était convaincu d'ailleurs qu'il marchait dans la bonne, dans la véritable voie, et le dernier de la race qui fut abrité sous les plis du drapeau blanc, il avait pris pour devise la devise des anciens preux « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Il était vêtu, selon son habitude, de cet uniforme bleu et argent avec lequel Vernet l'a représenté passant une revue. Il avait sur la poitrine ce cordon et cette plaque du Saint-Esprit avec lesquels, un an plus tard, il devait recevoir Victor Hugo et lui refuser la représentation de Marion Delorme. Les vers du poète sur cette entrevue vivent encore. Marion Delorme vivra toujours. Où étiez-vous, bon roi Charles X, qui refusiez la tête des pères aux enfants et la représentation des pièces aux poètes? En entendant l'huissier de service annoncer le visiteur pour lequel sa belle-fille venait de lui demander audience, le roi releva sa tête inclinée. « L'abbé Dominique Saranty, répéta-t-il machinalement. « Oui, c'est cela. » Mais avant que de répondre, il prit sur son bureau une feuille de papier, et quand il l'eut rapidement parcouru des yeux, il dit « Faites entrer monsieur l'abbé Dominique ». L'abbé Dominique parut sur le seuil de la porte, il s'arrêta, les mains croisées sur sa poitrine, et s'inclina profondément. Le roi aussi s'inclina, mais pas devant l'homme, devant le prêtre. « Entrez, monsieur, dit-il. » L'abbé fit quelques pas en avant et s'arrêta de nouveau. Monsieur l'abbé, reprit le roi, la promptitude avec laquelle je vous ai accordé cette audience doit vous prouver en quelle estime particulière je tiens tous les ministres de Dieu. C'est une des gloires de votre majesté, répondit l'abbé, et en même temps un des plus beaux titres à l'amour de ses sujets. Je vous écoute, monsieur l'abbé, fit le roi, en prenant cette attitude particulière aux princes qui donnent audience. « Sire, dit Dominique, mon père a été cette nuit condamné à mort. »« Je le sais, monsieur, et j'en ai profondément gémi pour vous. »« Mon père était innocent des crimes pour lesquels il a été condamné. »« Excusez-moi, monsieur l'abbé, interrompit Charles X, mais ce n'était point là l'opinion de messieurs les jurés. »« Sire, les jurés sont des hommes, et comme tels, ils peuvent être abusés par les apparences. » « Je vous accorde cela, monsieur l'abbé, plutôt comme une consolation filiale que comme un axiome de droit humain. Mais autant que la justice peut être rendue par les hommes, justice a été rendue à votre père par messieurs les jurés. Sire, j'ai la preuve de l'innocence de mon père. « Vous avez la preuve de l'innocence de votre père, » répéta Charles X avec étonnement. « Je l'ai, sire. Et pourquoi ne l'avez-vous pas donné plus tôt ?»«
Je ne pouvais pas. »
« Eh bien, monsieur, puisque, par bonheur, il est encore temps, donnez-la-moi. »«
Vous la donnez, sire, » dit l'abbé Dominique en courbant la tête. « Malheureusement, c'est chose impossible. »«
Chose impossible ? » ?»«
Hélas, oui, sire. » »«
Et quel motif peut empêcher un homme de proclamer l'innocence d'un accusé, quand surtout cet homme est un fils, et que ce condamné est son père ?»
« Sire, je ne puis répondre à votre majesté, mais le roi sait si celui qui combat le mensonge dans les autres, celui qui passe sa vie à rechercher la vérité, quelque part qu'elle soit, un des serviteurs de Dieu, enfin, le roi sait si celui-là pourrait, ou surtout voudrait mentir. Eh bien, sire, sur la droite du Seigneur qui me voit et qui m'écoute, du Seigneur que je supplie de me punir si je mens, je proclame hautement aux pieds de votre majesté l'innocence de mon père. Je l'affirme de toutes les forces de ma conscience, et je jure à votre majesté que je lui en donnerai l'épreuve un jour ou l'autre. »
« Monsieur l'abbé, répondit le roi avec une majestueuse douceur, vous parlez en fils, et j'honore le sentiment qui vous dicte vos paroles, mais permettez-moi que je vous réponde en roi. Ô sire, j'écoute les mains jointes. Si le crime dont votre père est accusé et pour lequel il est condamné ne regardait que moi, n'attaquait directement que moi, si c'était en un mot un crime politique, un attentat contre le repos de l'État, un crime de lèse-majesté, ou même un attentat contre ma propre vie, le coup eût-il porté, fussé-je blessé mortellement, comme mon pauvre fils l'a été par Louvel, je ferais ce qu'a fait mon fils mourant, monsieur, en faveur de votre habit que je respecte, de votre piété que j'honore. Mon dernier acte serait la grâce de votre père. Ô sire, que vous êtes bon. Mais il n'en est pas ainsi. L'accusation politique a été écartée par l'avocat général, et celle de vol, de rapt et d'assassinat.
Sire, sire. Oh, je sais que c'est cruel à entendre, mais puisque je refuse, dois-je au moins vous dire les causes de mon refus. L'accusation de vol, de rapt et d'assassinat est donc restée debout. Or, par cette accusation, ce n'est point le roi qui est menacé, ce n'est point l'État qui est en péril, ce n'est point la majesté ou la puissance royale qui est compromise, c'est la société qui est atteinte, c'est la morale qui crie vengeance.
« Oh, si je pouvais parler, sire !» s'écria Dominique en se tordant les bras.
« Ces trois crimes, dont non seulement votre père est accusé, mais encore dont il est convaincu, convaincu, puisqu'il y a jugement du jury, et que le jury, accordé par la charte aux Français, est un tribunal infaillible, ces trois crimes sont les plus bas, les plus lâches, les plus justement punissables. Le moindre des trois mérite les galères.
« Sire, sire, par grâce, ne prononçons pas ce mot terrible.
Et vous voulez, car c'est la grâce de votre père que vous venez me demander, n'est-ce pas ?»
L'abbé Dominique se laissa glisser sur ses genoux.
« Vous voulez, continua le roi, que quand il s'agit de ces trois terribles crimes, vous voulez que moi, père de mes sujets, je donne cet encouragement aux coupables d'user de mon droit de grâce ?» Quand, si je l'avais, et par bonheur je ne l'ai pas, je devrais user du droit de mort. En vérité, monsieur l'abbé, vous qui êtes grand justicier au tribunal de la pénitence, interrogez-vous vous-même et voyez si à un aussi grand coupable que l'est votre père, vous auriez à dire d'autres paroles que celles-ci, les seules que me dicte mon cœur. J'appelle sur le mort toute la miséricorde divine, mais je dois faire justice en punissant le vivant.
Sire, s'écria l'abbé, oubliant les formules respectueuses, l'étiquette officielle que le descendant de Louis XIV faisait si rigoureusement observer,
sire, détrompez-vous, ce n'est pas le fils qui vous parle, ce n'est pas le fils qui vous prie, ce n'est pas le fils qui vous implore, c'est un honnête homme qui, connaissant l'innocence d'un autre homme, vous crie, ce n'est pas la première fois que la justice humaine se trompe, sire. Sire, rappelez-vous Calas, sire, rappelez-vous Labar. Sire, rappelez-vous le Surc,
Louis XV, votre auguste aïeul, a dit qu'il donnerait une de ses provinces pour que Calas n'eût pas été exécuté sous son règne.
« Sire, sans le savoir, vous allez laisser tomber la hache sur le cou d'un juste. Sire, au nom du Dieu vivant, je vous le dis, le coupable va être sauvé, et c'est l'innocent qui va mourir. » « Mais dans ce cas, monsieur, dit le roi ému, parlez, parlez donc, si vous connaissez le coupable, nommez-le-moi, ou alors, fils dénaturé, c'est vous qui êtes le bourreau, parricide, c'est vous qui tuez votre père. Allons, parlez, monsieur, parlez, c'est non seulement votre droit, mais aussi votre devoir. » « Sire, c'est mon devoir de me taire, répondit l'abbé, dont les larmes, les premières qu'il eut versées, inondèrent les yeux. « S'il en est ainsi, monsieur l'abbé, reprit le roi, qui voyait les faits sans comprendre la cause et qui commençait à se trouver blessé de ce qu'il regardait comme un entêtement de la part du moine, s'il en est ainsi, permettez-moi de me soumettre à l'arrêt de messieurs les jurés. » Et il fit un signe qui indiquait à l'abbé que l'audience était finie. Mais si impératif que fût le geste du roi, Dominique n'obéit point, seulement il se releva et d'une voix respectueuse mais ferme, « Sire, dit-il, votre majesté s'est trompée. Je ne demande pas, ou plutôt je ne demande plus, la grâce de mon père. »« Que demandez-vous, alors ?»« Sire, je sollicite un sursis de votre majesté. »« Un sursis ?»« Oui, sire. »« De combien de jours ?» Dominique calcula dans son esprit, et tout haut, « de 50 jours. » Mais, fit le roi accorde 3 jours au condamné pour se pourvoir, et le pourvoi est toujours une affaire de 40 jours. C'est selon, sire. La cour de cassation, si on la presse, peut rendre son arrêt en 2 jours, en 1 jour même aussi bien qu'en 40 jours, et d'ailleurs, Dominique hésitait, et d'ailleurs, répéta le roi, voyons, achevez votre pensée. D'ailleurs, sire, mon père ne se pourvoira pas. « Comment votre père ne se pourvoira pas ?» Dominique secoua la tête. « Mais en ce cas, s'écria le roi, votre père veut donc mourir ?»« Il ne fera rien du moins pour échapper à la mort. »« Alors, monsieur, la justice aura son cours. » »« Sire, fit Dominique, au nom de Dieu, accordez à un de ses ministres la grâce qu'il vous demande. » « Eh bien oui, monsieur, je la lui accorderai peut-être, mais à une condition d'abord. » C'est que le condamné ne bravera pas la justice, que votre père se pourvoie, et je verrai s'il doit avoir, outre les 3 jours de délai que lui accorde la loi, les 40 jours de sursis que lui accordera ma clémence. Ce n'est point assez de 43 jours, sire, dit résolument Dominique, il m'en faut 50. 50, monsieur, et pourquoi faire ? Pour faire un voyage long et pénible, sire, pour obtenir une audience que j'obtiendrai difficilement peut-être, pour tâcher enfin de convaincre un homme qui, comme vous, sire, ne voudra peut-être pas être convaincu. Vous faites un long voyage. Un voyage de 350 lieues, sire. Vous le faites à pied? Je le fais à pied, oui, sire. Et pourquoi le faites-vous à pied? Dites. Parce que c'est ainsi que voyagent les pèlerins qui ont une grâce suprême à demander à Dieu. Mais si je faisais les frais de ce voyage, si je vous donnais l'argent nécessaire, sire, que votre majesté réserve l'argent qu'elle me donnerait à quelque pieuse aumône, j'ai fait vœu d'aller à pied et pieds nus, j'irai à pied et pieds nus. Et dans 50 jours, vous vous engagez à prouver l'innocence de votre père? Non, sire, je ne m'y engage point, et je jure au roi que nul autre à ma place ne pourrait s'y engager. Mais j'affirme qu'après le voyage que j'entreprends, si je n'ai pas les moyens de proclamer l'innocence de mon père, j'affirme que j'accepterai l'arrêt de la justice humaine, me bornant à répéter aux condamnés ces paroles du roi, « J'appelle sur vous la miséricorde divine ». Une émotion nouvelle s'empara de Charles X. Il regarda l'abbé Dominique, et en voyant sa franche et loyale figure, une demi-conviction entra dans son cœur. Malgré lui, cependant, car on le sait, le roi Charles X n'eut pas le bonheur d'être toujours lui, malgré lui cependant, malgré cette sympathie irrésistible qu'inspirait le visage du noble moine, visage qui n'était que le reflet de son cœur, le roi Charles X, comme pour puiser des forces contre le bon sentiment qui menaçait de l'envahir, et prit pour la seconde fois la feuille de papier posée sur sa table et où il avait jeté les yeux quand l'huissier avait annoncé l'abbé Dominique. Il y porta rapidement un regard, et ce regard, si rapide qu'il fût, suffit pour refouler en lui ce bon vouloir, lequel n'eut ainsi qu'une expression éphémère. D'attendrie qu'elle était en écoutant l'abbé Dominique, sa figure redevint froide, soucieuse, renfrognée. Et s'il y avait bien de quoi être renfrogné, soucieux et froid, la note que le roi avait sous les yeux était l'histoire abrégée de M. Sarranti et de l'abbé Dominique, deux portraits esquissés de main de maître, comme savait les esquisser la congrégation, la biographie de deux révolutionnaires acharnés. La première était celle de M. Sarranti. Elle le prenait à son départ de Paris, elle le suivait dans l'Inde, à la cour de Rujit Singh, dans ses relations avec le général Le Bâtard de Prémont, indiqué lui-même comme un homme horriblement dangereux. Puis de l'Inde, elle passait avec eux à Schönbrunn, détaillait cette conspiration, échouée par les bons soins de M. Jacqual, et tout en perdant le général Le Bastard de l'autre côté du pont de la Vienne, reprenait M. Sarranti seul pour le ramener à Paris et ne le quitter qu'au jour de son arrestation. En marge étaient ces mots, accusé et convaincu en outre des crimes de rapt, de vol et d'assassinat pour lesquels crimes il a été condamné. Quant à l'abbé Dominique, sa biographie à lui n'était pas moins détaillée. On le prenait au sortir du séminaire, on le proclamait un disciple de l'abbé Lamennais, dont la dissidence commençait à percer, et puis on en faisait un visiteur de mansarde, répandant non la parole de Dieu, mais la propagande révolutionnaire. On citait tel sermon de lui, qui lui eût valu les remontrances de ses supérieurs, s'il n'eût pas relevé d'un ordre espagnol non encore rétabli en France. On proposait enfin de le renvoyer à l'étranger, sa présence à Paris étant dangereuse au dire de la congrégation. En somme, d'après la note que le pauvre bon roi avait sous les yeux, messieurs Sarranti, père et fils, étaient deux buveurs de sang, tenant à la main l'un l'épée qui devait renverser le trône, l'autre la torche qui devait brûler l'église. Il suffisait donc, quand une fois on s'était imprégné de tout ce venin jésuitique, de rejeter les yeux sur cette feuille de papier pour se reprendre de la haine politique qui en un instant pouvait s'affaisser et pour revoir d'un seul coup sourdre à nouveau tous les fantômes de la Révolution. Le roi frissonna et jeta un mauvais regard à l'abbé Dominique. Celui-ci ne se méprit pas au sens de ce regard et se sentit atteint comme d'un fer rouge. Il releva la tête fièrement, s'inclina sans se baisser et fit deux pas en arrière, s'apprêtant à sortir. Un suprême dédain pour ce roi qui repoussait les instincts de son cœur afin de leur substituer les haines d'autrui, le foudroyant mépris du fort pour le faible, vint, malgré l'abbé Dominique, errer dans ses yeux et sur ses lèvres. Charles X, à son tour, vit ce sentiment luire comme une flamme, et Bourbon, après tout, c'est-à-dire prompt à la grâce, il eut un de ces remords qu'à certaines heures devait avoir en regardant Agrippa d'Aubigné, son aïeul Henri IV. La vérité, ou tout au moins le doute, lui apparut dans la demi-teinte. Il n'osa point refuser ce que lui demanda cet honnête homme, et rappela l'abbé Dominique au moment où celui-ci allait se retirer. « Monsieur l'abbé, lui dit-il, je n'ai point encore répondu négativement ni affirmativement à votre demande, mais si je ne l'ai point fait, c'est que je regardais passer devant mes yeux, ou plutôt dans ma pensée, les ombres des justes injustement immolés. « Sire, s'écria l'abbé en faisant deux pas en avant, il en est temps encore et le roi n'a qu'à dire un mot. « Je vous accorde 2 mois, monsieur l'abbé, dit le roi, en reprenant sa hauteur ordinaire, comme s'il se repentait et s'il rougissait de laisser paraître la moindre émotion. Mais, entendez-vous, que votre père se pourvoie. Je pardonne quelquefois la rébellion contre la royauté, je ne pardonnerai pas la rébellion contre la justice. Sire, voudrez-vous me donner le moyen, à mon arrivée, de pénétrer jusqu'à vous à toute heure du jour et de la nuit ?» « Volontiers, dit le roi, et il sonna. « Vous voyez, monsieur, dit Charles X à l'huissier qui entra, reconnaissez-le, et n'importe à quelle heure du jour ou de la nuit il se présentera ici, qu'on l'introduise près de moi. Prévenez-en les gens de service. » L'abbé s'inclina et sortit le cœur plein de joie, sinon de reconnaissance.